Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une expérience concrète de coopération intégrale. Et pour faire simple, il s'agit d'une démarche de désertion du capitalisme et de résistance à son emprise, qui échappe aux écueils de ce qu'on pourrait appeler l'alternative, l'alternativisme, qui ne fait en fait finalement que reproduire le capitalisme, mais sous un autre visage. Éthique, locale, etc. Et en même temps, ce n'est pas non plus l'attente d'un grand soir, même si évidemment une rupture révolutionnaire à un moment sera nécessaire pour sortir du capitalisme. Mais en tout cas, dans cette émission, on pense que c'était important de montrer qu'il est possible ici et maintenant d'entamer des démarches qui certes ne prétendent pas rompre mondialement avec le capitalisme, mais au moins échapper le plus possible à son emprise. Alors donc pour parler de cette expérience de coopération intégrale, nous sommes avec des membres, des participants et des participantes de cette expérience qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années. Et pour comprendre comment est-ce que les membres, cette expérience s'est développée depuis un certain nombre d'années, on pensait que c'était important de faire un peu un historique, puisque cette expérience n'est pas née comme ça, voilà, sortie d'un cerveau abstrait, mais c'est un long processus d'expérimentation et de remise en cause qui a permis d'arriver à quelque chose qui est, je crois, très intéressant et très novateur par rapport à énormément d'autres expériences et alternatives qui peuvent se dérouler en France et dans le monde. Et donc c'est pour ça qu'on avait envie de montrer comment est-ce qu'on est passé de quelque chose qui était peut-être un peu classique, c'est-à-dire la communauté, voilà, avec des jardins partagés, à quelque chose qui est la coopération intégrale et qui extrêmement original et dont on parlera plus précisément dans une deuxième partie qui sera consacrée à c'est quoi cette coopération intégrale et c'est quoi ces différentes composantes. Et là, dans une première partie, l'idée était que des participants et des participantes à cette expérience nous parlent de comment progressivement ils et elles ont cheminé vers la coopération intégrale et voilà, quels ont été ces chemins, quelles ont été peut-être les erreurs et comment est-ce que ces erreurs éventuellement ont permis d'avancer vers ce qui nous paraît être peut-être une des choses les plus originales et intéressantes qui se passent aujourd'hui en France. Donc bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, voilà, comme je l'avais dit en introduction, c'est une expérience qui existe depuis un certain nombre d'années. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous pourrait nous expliquer un peu d'où est-ce qu'ils sont partis et quel a été le chemin de ce qui était au départ une communauté et qui est devenue progressivement une commune ou une coopération intégrale.
Au départ, enfin, y a un lieu, un terrain collectif avec des habitants et habitantes. Et on s'est retrouvés autour de l'envie de déconstruire un peu notre mode de vie pour le reconstruire un peu notre manière. Du coup, c'est passé par déjà la volonté d'être autonome au niveau de l'alimentation. Du coup, ça nous a amené. Alors, dans l'équipe, il y avait aussi des personnes qui voulaient faire du maraîchage, ce qui fait que ça nous a un peu aidé aussi à apprendre à faire pousser des légumes. Et petit à petit, on s'est dit qu'on allait faire des jardins, enfin un jardin partagé, où l'idée c'était que chaque personne qui avait envie vienne cultiver, enfin apprendre à cultiver les légumes. Et finalement, du coup, il y a eu plusieurs tentatives. On a essayé du coup de s'organiser pour que chaque personne en fait puisse aller au jardin la semaine, toute la semaine, sachant qu'il y avait des personnes qui travaillaient, donc qui n'étaient pas forcément là, d'autres qui étaient là tout le temps et qui consacraient beaucoup de temps. Et du coup, il y avait un déséquilibre en fait entre les personnes qui passaient du temps et les autres qui n'en passaient pas du tout. Moi, quand je suis arrivée, donc c'était il y a 7 ans, du coup, j'étais plutôt en mode aussi autodidacte et où je me disais que chaque truc que j'apprenais, en fait, je devais produire une documentation. Et en fait, la réalité, c'est que c'était très difficile. Du coup, pour les personnes, par exemple, j'ai passé des heures à lire des bouquins sur comment faire pousser des carottes. Et en attendant, il y avait d'autres personnes qui comptaient sur moi pour essayer de leur retransmettre. Et puis, j'y arrivais pas parce que du coup, bah, je passais du temps à faire pousser des carottes. Et du coup, il y a eu, voilà, il y a eu plein de tentatives d'ajustement sur. On voyait qu'en fait, ça fonctionnait pas du tout. Enfin, il n'y avait pas du tout d'équilibre entre la participation de chacun et chacune. Et du coup, on a décidé un jour qu'on arrêtait. En se disant, bon ben tant pis, on n'est pas capable de trouver une solution, donc on essaye autrement. Et petit à petit, on s'est dit finalement, on pourrait peut-être se dire que chaque personne qui a envie d'avoir des légumes passe 3 heures par semaine dans le jardin, en se faisant accompagner en fait d'un maraîcher.
C'est ce que vous appelez du coup l'autoproduction accompagnée.
Voilà, la ferme d'autoproduction accompagnée.
Et du coup, là, l'idée d'avoir introduit les 3 heures, c'était pour éviter justement un côté un peu informel où finalement il y avait des gens qui investissaient tout leur temps et des gens qui investissaient très peu de temps. Et en même temps, enfin, tout le monde se sentait un peu, enfin, personne notamment qui du coup passait beaucoup de temps se sentait un peu lésé. Alors que là, l'idée c'était d'introduire quelque chose d'un peu plus qui frustrerait moins de gens et qui.
Oui, aussi parce que par exemple dans le jardin partagé où il n'y avait finalement aucune organisation, où on pensait que tout pouvait se faire tout seul, du coup en fait on perdait tous les légumes, enfin une bonne partie, puisque les personnes qui n'avaient pas travaillé en fait se disaient je suis pas légitime pour aller récolter les légumes, donc je n'y vais pas. Ou d'autres qui allaient mais qui prenaient tout. Enfin voilà, il n'y avait pas d'équilibre. En fait, petit à petit, on s'est dit que effectivement il fallait qu'on soit aussi autonome dans l'apprentissage de faire pousser les légumes et aussi par exemple que les dépenses pour les achats de matériel et tout ça soient un peu réparties entre chaque personne et que oui on passe un peu le même temps et surtout ensemble en fait parce qu'on se retrouvait souvent seul ou à deux dans le jardin.
Oui.
Après, ouais, il y a eu aussi différentes manières de faire le jardin, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui le faisaient vraiment pour le plaisir et qui comptaient pas forcément sur les légumes, et d'autres qui comptaient vraiment dessus, mais qui savaient pas comment faire. Du coup, on n'arrivait pas à... Enfin, on a eu du mal, en tout cas, à trouver un équilibre dans tout ça. Parce que la ferme d'autoproduction, en fait, nous a permis vraiment d'équilibrer et surtout de se retrouver ensemble pour apprendre à faire quelque chose, quoi.
C'est-à-dire que c'était quelque chose qui sortait à la fois de quelque chose d'un peu informel, où finalement il y avait où on s'en remet beaucoup, disons, à la spontanéité, et finalement ça marchait pas très bien. Et en même temps, finalement ça devenait plus quelque chose de collectif, mais quelque chose où les individus arrivaient, repartaient. Enfin, du coup, c'était plus quelque chose de collectif. Ce que vous voulez faire, c'est quelque chose de collectif et d'un peu posé, formel, pour que ça marche bien, parce que vous aviez vu que, voilà, le jardin partagé dans l'informel et où chacun finalement, où il n'y a pas vraiment d'engagement réciproque et finalement de collectif, ça posait pas mal de problèmes, quoi. Et du coup, par rapport à la ferme d'autoproduction, est-ce que finalement les objectifs auxquels vous aviez pensé donner à cette ferme d'autoproduction et par rapport aux échecs des jardins partagés, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui a moins été? Qui a fait que vous avez pu penser à dépasser finalement cette ferme d'autoproduction pour passer à, voilà, à la coopération intégrale.
On s'organisait pour faire des choses ensemble, mais il n'y avait aucune obligation aussi de participer. À un moment aussi, on a essayé de discuter de l'implication en fait dans chaque projet. Et il y a des personnes pour lesquelles certaines choses ne leur parlaient pas du tout. Par exemple, sur le partage des véhicules. Où on a commencé au départ avec plusieurs voitures et puis finalement accident, panne, du coup on s'est retrouvé sans voiture à un moment. Et du coup on s'est dit on achète une voiture à plusieurs et on la partage. Et finalement en faisant ça on s'est rendu compte que, enfin, en fait, ouais, c'est que ça partait avant de d'une voiture individuelle que tu prêtes, bah, parce que, enfin, bon, t'as une voiture à ton nom et tout ça, tu la prêtes pour rendre service. Puis finalement, ça s'installe et puis finalement, la personne qui a une voiture paye les réparations, l'assurance toute seule. Du coup, à un moment, on a remis ça en question et on s'est dit, bon, bah, finalement, c'est pas juste, c'est toujours la même personne qui se tape les PV, les réparations, l'assurance. Du coup, on a acheté une voiture à plusieurs, en se disant qu'il y avait aussi bah, voilà, possibilité de s'organiser autrement pour les transports et de, bah, de se regrouper, par exemple, quand il faut aller faire les courses. En fait, la coopération intégrale, elle est arrivée un peu comme ça, où sur plusieurs, plusieurs aspects de la vie, en fait, qu'on essayait de retricoter à notre façon. Du coup, bah, on a monté des associations, enfin, des projets sur, voilà, sur les transports, le travail, l'alimentation, un peu à la manière des coopératives intégrales en Catalogne, en fait.
Oui, c'est-à-dire l'idée, c'était en fait, vous êtes parti de différentes choses que vous aviez expérimentées dans le domaine du maraîchage, des transports, et vous êtes rendu compte que quelque chose d'informel marchait pas nécessairement très bien, qui valait mieux, même si en apparence, et c'est ça que je trouve très intéressant dans votre expérience, c'est que on peut avoir d'un point de vue un peu idéologique, se dire ah oui, il vaut mieux l'informel parce que l'association c'est quelque chose d'un peu étatique, finalement on fait le jeu du système. Finalement, vous vous êtes rendu compte que finalement créer ces associations, ça permettait de faire quelque chose qui avait une portée même politique plus importante, enfin déjà pratique, mais aussi politique, beaucoup plus importante que quelque chose d'informel où finalement ça posait plein de problèmes pratiques et finalement ça arrivait difficilement à répondre à vos propres besoins, mais en plus du coup c'était pas vraiment ouvert sur des personnes qui justement font pas partie du collectif.
Oui, c'est ça. En fait, on avait aussi, enfin ouais, pour en revenir aux personnes par exemple qui ne souhaitaient pas forcément partager leur voiture parce que ben elles ont un travail à l'extérieur et qu'elles pouvaient pas. Enfin voilà, c'était aussi de pas obliger les personnes qui étaient là à adhérer à tous les projets et en même temps de laisser la porte ouverte aux autres personnes qui en avaient vraiment besoin.
C'est là où ça dépassait le cadre communautaire et que ça passe plutôt sur l'idée voilà d'une commune ou d'une coopération intégrale parce que justement c'est pas un noyau fermé qui est obligé de tout faire ensemble, de partager toutes les voitures, etc., etc., et qui en même temps fait qu'il y a des gens qui à l'intérieur de ce collectif sont contraints de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et d'un autre côté des gens qui à l'extérieur auraient bien envie de faire partie de ça mais qui ne sont pas dans cette communauté et qui du coup sont peuvent pas répondre à leurs besoins en termes de transport ou autre. Et du coup, l'idée de la coopération intégrale, c'était un peu de dépasser enfin, ces problèmes-là, à la fois en interne et dans la relation avec les personnes extérieures. Peut-être que du coup, ça pourrait être intéressant de revenir un peu plus précisément sur le passage de la ferme d'autoproduction à quelque chose qui est central dans la coopération intégrale, qui est ce que vous appelez le lundi commun, c'est-à-dire l'idée de communiser, de mettre en commun une journée. Peut-être qu'on pourrait revenir sur le passage de l'un à l'autre et en quoi est-ce que le lundi commun permet peut-être de répondre mieux à certaines attentes.
Oui, la ferme d'autoproduction, ça a été aussi beaucoup l'acceptation d'avoir besoin d'être guidé par quelqu'un qui connaisse déjà le milieu. Parce que c'est vrai qu'aller chercher les différentes informations dans les livres, les sites, où on trouve un peu tout et son contraire, à un moment, il fallait aussi accepter d'avoir besoin d'un point de référence et aussi de se structurer autour d'une organisation plutôt que de compter sur... sur l'auto-responsabilisation qui, au final, parle à chacun, à chacune, en fonction de différents degrés, et qui est forcément produit des résultats complètement différents. Et donc, la ferme d'autoproduction, c'était des personnes souhaitant s'autonomiser d'un point de vue alimentaire, notamment autour de la production de légumes. Donc là, on se séparait radicalement la culture plaisir, la culture du dimanche, du week-end, de la volonté de réellement avoir, de compter sur la production de notamment de légumes, très principalement. Et donc les membres se sont réunis autour de ça avec, comme on vient de le dire, en fixant un quota horaire minimal de 3 heures par semaine pour permettre aussi à chacun et chacune de pouvoir adapter son emploi du temps à la ferme d'autoproduction. Donc ça a fonctionné pendant 3 ans, où les 2 premières années ont vraiment très bien fonctionné. Il y a eu de plus en plus de gens, notamment de l'extérieur, qui sont venus et qui ont adhéré, qui ont participé, avec des jardins qui, au fur et à mesure, ont pris place dans la grande serre, mais aussi dans le jardin qui, au départ, était réservé au jardin purement convivial, puisqu'il était au final assez peu utilisé. Le collectif de la ferme d'autoprod grandissant, on a eu besoin d'espace. On a eu des belles récoltes, ça a vraiment bien fonctionné. Et puis au bout d'un moment, il y a eu un gros phénomène de climat déjà qui n'a pas aidé, où il a plu pendant 4 mois sans discontinuer, nous empêchant de préparer la terre pour l'été, de préparer les récoltes à venir. Et ça a beaucoup essoufflé le mouvement.
Et du coup, ça vous a amené à repenser peut-être la ferme d'autoproduction accompagnée.
D'autant plus qu'en parallèle, les gens, notamment de l'extérieur, il y a eu de grandes discussions autour de ce qu'on faisait de cette récolte. Est-ce qu'on incluait les personnes qui ne pouvaient plus cultiver ou qui ne pouvaient pas encore cultiver? Est-ce qu'on partageait comment les intégrer ou dans ce cas-là de manière différente sans leur imposer une productivité, parce qu'au final c'est quand même assez physique comme travail à fournir. Les grandes discussions sont allées au fur et à mesure en s'élargissant autour de la réaction par rapport au système dont on était tous dépendants. Et où, malgré tout, même si on avait beau être tous et toutes dépendants, on avait tous et toutes envie de le quitter, ou au moins de s'en éloigner le plus possible. Et donc en parallèle, il y a eu la création de la coopérative intégrale, où on a commencé à fixer les bases de comment s'organiser ensemble de manière à pouvoir, en y allant crescendo, se séparer de ce système-là, en y allant crescendo de manière à pouvoir inclure le plus de monde possible et avoir la meilleure ouverture. Parce qu'on peut se mettre à 10 et se couper du monde et dire ben voilà, on a quitté le système, mais au final, il n'y a personne d'autre qui peut en profiter.
Et du coup, dans ce cadre-là, l'instauration des lundis communs, pourquoi est-ce qu'il est presque un peu emblématique de la démarche de la coopération intégrale?
Ça a été un des points de départ. La ferme d'autoproduction a été, on va dire, le tremplin vers justement ce lundi commun. Parce que on se rendait compte que juste à 50 mètres, il y avait une équipe de maraîchers où on essayait en gros de reproduire exactement ce que eux faisaient. Et où, en étant une vingtaine, on n'arrivait pas à fournir le temps de travail, parce que globalement, dans le même principe que pour les jardins partagés, les 3 heures par semaine, les gens se retrouvaient seuls, sans trop savoir quoi faire, quand, comment. Les maraîchers n'étaient pas forcément non plus tout le temps disponibles, et puis il faut aussi se sentir légitime d'aller demander quoi faire, de déranger les personnes référents et référents. Donc ça finit par s'essouffler. C'est vrai que c'est toujours plus facile de travailler 3 heures à 15 que 3 heures tout seul. Ça a fini par s'essouffler, mais avec malgré tout quand même encore cette envie de s'autonomiser en matière d'alimentaire. Et donc il y a eu les prémices de discussion en disant à la rigueur, si vraiment la difficulté c'est pas de fournir l'effort mais c'est de le fournir ensemble, autant commencer à se fixer un gros moment, une journée où on est tous et toutes là pour donner le bon coup de collier qui va nous permettre d'avancer sur la production alimentaire. Et on a discuté d'un jour. Au final, je crois que c'est le lundi qui a été choisi, celui qui arrangeait le plus les personnes qui étaient présentes dans la ferme d'autoproduction. Et puis, au fur et à mesure des discussions, on s'est dit que si on était 20, voire 30, dans la même journée, on n'allait pas se mettre à 20 dans la serre, du coup, on pouvait faire d'autres choses. Pourquoi pas du pain? Et puis, mais si on est tous là dans la même journée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de faire à manger pour tout le monde, donc il faut une équipe cuisine. Et puis, il y a des enfants, du coup, il faut une équipe enfant, parce que sinon, les parents restent dans leur coin à chapeauter leur tête blonde. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est développé vers la provision commune.
Peut-être qu'on pourrait expliquer un peu rapidement ce que c'est que la provision commune.
La provision commune, c'était s'organiser ensemble pour résoudre au final des problèmes individuels. On a tous besoin de se nourrir, on a tous besoin de manger du pain, en tout cas pour ceux qui mangent du pain. On a tous besoin de se vêtir, on a tous... Ce qui sont au final des problèmes individuels, mais qu'on pouvait essayer de résoudre ensemble. Et donc on l'a stigmatisé sur cette journée, en espérant que cette journée allait s'étendre petit à petit et grignoter les autres jours de la semaine. Le mardi commun, puis le mercredi, puis la semaine commune. Et ça, ensemble, qu'on soit habitant ou habitante du lieu, ou qu'on soit à 30 bornes. Et puis pourquoi pas, peut-être à terme, faire un réseau avec d'autres gens qui se regroupent parce qu'ils sont 15 à 30 bornes. Surtout l'organisation collective qui prime.
Du coup, l'idée, c'était de faire face ensemble à ce que... Dans le cadre de la société capitaliste, chacun normalement fait face tout seul, ses besoins alimentaires, ses besoins de vêtements, même ses besoins d'argent. Du coup, c'est en ça que c'est intéressant cette expérience de coopération intégrale, parce que ça tranche un petit peu avec ce qui est fait dans les deux cas qu'on avait abordés au début de l'émission. C'est-à-dire soit l'alternativisme où finalement, ensemble, c'est pas qu'on fait face à l'économie ensemble, c'est qu'on s'insère pleinement dedans, même si c'est sous une autre forme, plus écologique, etc. Ou alors une posture, disons, voilà, de radicalité, mais où finalement, même si on fait une manif sauvage tel jour, bon, les autres jours de la semaine, souvent, même s'il y a pas mal d'exceptions intéressantes, à ça, on peut être salarié et se faire chier comme tous les autres et pas construire pendant ces jours-là. Donc finalement, on peut construire que bah, le week-end ou les jours qu'on prend ou alors on est dans quelque chose de plus informel, les squats, les réseaux d'amis et tout ça, mais où finalement ça peut pas s'étendre au-delà du milieu militant qui est disposé voilà, à une certaine radicalité. Ce qui diminue un peu peut-être le niveau d'inclusion et d'inclusivité. Peut-être qu'on pourrait justement, à ce propos, avoir un témoignage par rapport à l'inclusion dans les lundis communs ou dans la coopération intégrale.
Ouais, c'est vrai que moi, je pense que, en tout cas, le moment où j'ai eu le sentiment de rentrer dans la démarche de la coopération intégrale, c'est clairement... par le biais des lundis communs. Et en fait, pour être un peu narratif rapidement, en gros, les lundis communs, on se rassemble entre 9h et 9h30 le matin. Et c'est un moment où on se retrouve, où on boit le café, où il y a des petites discussions informelles. Puis c'est aussi le moment où on s'inscrit pour les repas du midi, du soir, pour les paniers, pour le pain. Et c'est aussi le moment où on s'inscrit sur des pôles, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des pôles, et qui sont voilà, les différentes activités, entre guillemets, qui sont nécessaires au bon déroulement des lundis. Donc ça va être la cantine, les enfants, le maraîchage, etc. Et clairement, je pense qu'un des points forts des lundis communs, c'est que, indépendamment de l'endroit physique où ça peut se dérouler, et où il y a des gens qui habitent, des fois, on double le nombre de gens... qui sont là pour ces journées-là, par rapport au nombre d'habitants. Et il y a cette espèce de force où on sent bien que, parce que si moi, le matin, je suis sur le maraîchage, et ben, j'ai aussi bien conscience du fait que pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en train de faire à manger pour nous, que pendant ce temps-là, il y a des gens qui s'occupent des enfants, que pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en train de faire du pain pour le soir. Non seulement j'en ai conscience, mais en plus... à midi, quand ça sonne pour aller manger, eh ben, je les retrouve, tous ces gens-là. Et je peux parler avec eux de ce qu'ils ont fait, de ce que moi j'ai fait. Et donc, je trouve que ça rend sensible, ça permet d'éprouver directement, quelque part, des choses que à force de les lire dans les bouquins, à force de se dire que ce serait ça qui serait bien, etc., ça finit par devenir des idées complètement détachées de quoi que ce soit de pratique. Et donc du coup, c'est lundi commun, ça permet de retrouver ce rapport direct, j'allais dire charnel, à cette idée de partage, et puis ça lui donne une consistance qui est forte.
Et une consistance qui est à la fois pratique et qui en même temps a une portée politique, puisque...
Ah oui, c'est clairement, il y a une visée, c'est pas... l'idée c'est pas d'avoir des repas pas chers et des légumes pas chers et du pain pas cher. L'idée c'est que c'est un moment où on subvertit les outils qu'on a acquis dans une perspective économique pour les détourner de cette perspective-là et de dire bon bah maintenant qu'on a de quoi faire du pain, et ben les lundis communs on est capable de faire du pain pour nous, le payer à prix coûtant, à prix réel. Et à terme, enfin, je pense que clairement, et c'est là où c'est politique, et c'est aussi là que c'est un processus, c'est qu'à terme, l'idée c'est que la farine, il n'y a plus besoin de la payer parce qu'elle sera aussi produite pas loin.
Et est-ce que tu voudrais également parler de quelque chose qui fait aussi partie de la coopération intégrale et qui en est un des dispositifs un peu centraux et que je trouve très intéressant, qui est la pâte?
Alors, ben, la pâte, moi j'y ai été confronté parce que à un moment, on devait aller chercher des choses en ville. Moi j'ai mon permis, mais j'ai pas de voiture parce que j'ai pas des revenus réguliers suffisants pour entretenir une voiture. Et donc, du coup, il y avait personne qui pouvait m'emmener, mais on m'a proposé d'adhérer donc à l'association APAT, qui signifie adhésion pour une association des transports. Et en fait, du coup, j'ai signé un papier, on a pris une photo de mon permis de conduire. Et voilà, en 15 minutes, je me suis retrouvé au volant d'une voiture en route pour la ville. Et du coup, dans le même état d'esprit que le lundi commun, il y a quand même ce truc où l'expression un peu consacrée ici, c'est de dire « se solutionner ». Et donc, il y a quand même clairement, et je pense que c'est un peu, ça résume assez bien, je pense, l'esprit de la, enfin, résumé, je sais pas si. En tout cas, ça donne une bonne idée, je pense, de l'esprit de la coopération intégrale, et qui est de dire, on va chercher dans chacune des questions ou des secteurs qui se posent dans la vie, des manières de les affronter ensemble, et de pas se laisser chacun dans notre petite galère, chacun de notre côté. Et de ce point de vue-là, moi, à Pat, ça m'a vachement aidé parce que je suis même pas sûr en fait, d'avoir vraiment envie d'acquérir une voiture pour moi, de me retrouver avec les frais fixes, des assurances, des machins. Et j'en suis d'autant moins sûr maintenant que je trouve que... Enfin, en fait, voilà, je pense que depuis que je connais à Pat, la seule raison pour laquelle j'achèterai une voiture aujourd'hui, c'est pour la mettre en commun par le biais d'APAT.
Et du coup, est-ce que tu peux préciser un peu comment ça fonctionne, l'APAT? Parce que... On pourrait se dire c'est un simple partage de voiture, ou peut-être quelqu'un peut le faire.
Du coup, c'est une association qui est propriétaire en fait des véhicules. Du coup, il y a un contrat d'assurance qui est négocié avec le cabinet d'assurance. Et du coup, tous les adhérents et adhérentes sont assurés. Alors en fait, du coup, les personnes en fait s'organisent autour d'un projet de transport. Enfin, on détermine ça comme ça, c'est-à-dire que pour chaque véhicule, il y a un projet de transport. Par exemple, sur une voiture 5 places, il peut y avoir... le projet de transport peut être, par exemple, l'utilisation de la voiture pour aller faire des courses, utilisable, par exemple, en semaine ou que le week-end. Enfin, on définit ensemble, en fait, les conditions d'utilisation. Et ensuite, le but aussi, c'était de pouvoir faire les réparations ensemble, en fait. D'organiser des temps où chaque personne peut soit montrer comment faire une vidange, soit... du coup, réparer le véhicule ensemble, au maximum.
Et donc, concrètement, par exemple, si, mettons, j'adhère à l'association... Mettons que mon besoin entre guillemets en transport, c'est je dois aller à Bourges tous les matins la semaine et revenir le soir parce que j'ai un taf là-bas. Pratiquement, comment ça se discute, puisque du coup c'est pas comme peut-être un truc de voiture partagée du genre je prends une voiture vu qu'elle est dispo et puis.
En fait, les personnes se réunissent définissent ensemble. L'utilisation du véhicule. Donc si c'est arrivé où il y a une personne qui est arrivée et qui a dit J'ai besoin d'un véhicule pour aller travailler tous les jours à 15 km. Du coup, ça a immobilisé le véhicule toute la journée. Du coup, bah, d'autres personnes ne pouvaient pas s'en servir à ce moment-là. Donc, en fait, dans ces cas-là, on remonte un projet de transport et il y a un véhicule qui est mis dans l'association et qui est utilisable par cette personne. Du coup, ça, enfin, par cette personne ou plusieurs personnes qui ont des besoins qui se regroupent.
Ce qui fait que, du coup, ça permet peut-être de... Enfin, que les transports relèvent plus d'une décision collective et d'une concertation uniquement quelque chose d'un peu individualiste. Et que du coup, ça permet, voilà, en fonction du projet de transport, on va dire oui ou dans l'état actuel du nombre de véhicules qu'on a, ça marche pas, mais peut-être qu'on peut acquérir collectivement une voiture et l'acheter dans le cadre de l'association pour pouvoir répondre à ton projet de transport.
Ouais, oui, c'est ça. Avec, avec des outils pour s'organiser, pour réserver le véhicule sur la semaine à des moments bien précis. Mais oui, c'était pour éviter d'avoir des véhicules individuels, en fait. De se retrouver avec plusieurs voitures qui sont utilisées que par une personne.
Oui, et du coup, ce serait une espèce de... Enfin, finalement, ça s'appelle partage de voitures, mais en fait, c'est juste... On a collectivement des voitures qu'en fait, on utilise individuellement. Et du coup...
Oui, après, c'était aussi plus partage... Enfin, moi, j'aime bien dire plutôt partage des moyens de transport, puisque du coup, on peut inclure, en fait, n'importe quel moyen de transport. Ça peut être un vélo. Après, c'est vraiment... Le but, c'était vraiment de s'organiser ensemble et s'organiser autrement sur les déplacements. Ou par exemple, quelqu'un doit aller faire des courses à un endroit. Ben, dans ces cas-là, avant d'y aller, du coup, tu dis aux autres, je vais faire des courses à un Tereski. Et du coup, il y avait d'autres choses qui se passaient aussi, des interactions avec des personnes. Dire, toi tu vas là, je viens avec toi. Enfin, c'est plus... ça me fait penser à la brochure. C'est l'idéologie sociale de la bagnole.
D'André Gortz.
Ouais, c'est ça. Enfin, qui est hyper intéressante, justement, je pense, pour comprendre aussi à patte et l'envie de faire autrement sur les déplacements, du coup, plus globalement.
J'avais une question, du coup. Je me demandais au niveau financier, par rapport aux voitures qui sont achetées en commun et tout ça. Bah, par exemple, s'il y a une personne qui va tous les jours au travail avec une voiture, est-ce qu'elle va participer plus qu'une personne qui va faire une fois les courses par mois, ou enfin je sais pas.
Alors, y a, pour acquérir le véhicule, en fait, chaque personne du collectif de transport se divise les frais de l'achat. Ensuite, il y a un taux kilométrique que tu payes pour provisionner, en fait, pour les réparations de l'entretien. Ensuite, il y a une part de l'assurance qui est aussi comprise, qui est payée mensuellement. Sur certains véhicules, ça dépend, soit annuellement, soit mensuellement. En fait, je pense qu'au niveau des coûts, c'est pas moins cher, mais ça permet déjà aussi de se libérer d'une contrainte... Et des dépenses fixes comme ça tous les mois. Après non, du coup, en tout cas, une personne qui utilise plus un véhicule, en fait, juste elle va payer plus parce qu'elle a parcouru plus de kilomètres. Mais du coup, c'est assez équilibré.
Donc tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, mais c'était sur le sujet précédent, sur le coût du partage et des projets de transport. Moi, ce que je trouvais intéressant dans la patte, c'est un peu ce qu'on peut faire comme critique de la mutualisation en général. C'est que... Souvent, par exemple, on va, comme tu l'as précisé, on va partager une bagnole, mais on se fout pas mal de son usage par chacun et chacune. Du coup, ça a des limites en termes, même dans les objectifs de restreindre le parc de bagnoles pour atteindre un niveau peut-être plus intéressant d'écologie. Ça a une limite qui peut être dépassée par le fait de faire des projets de transport et ensemble se dire tu vas où, moi je vais là, on va là. Et ensemble, on règle l'ensemble des transports. Ce qui fait que quelqu'un qui va bosser le matin et qui aura réservé sa bagnole tout seul dans un truc type partage de bagnole, économie collaborative, je sais pas quoi, bah là, d'un seul coup, en fait, il découvre que le môme de la personne avec qui partage la bagnole, il va quasiment à côté de son boulot. Et finalement, il y a une possibilité de prendre ça en charge. C'est-à-dire on se solutionne vraiment ensemble vis-à-vis du transport. Et ça permet simplement de s'interroger sur la vie des uns et des autres. C'est vraiment une grosse différence entre, pour moi, communiser et mutualiser. Quoi.
En fait, du coup, si j'ai bien compris, la patte, c'est un peu une critique d'un modèle qui est celui de l'économie collaborative, qui finalement est indifférente aux usages, alors que là, l'idée, c'est de se regrouper autour d'un besoin et d'essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas ensemble répondre, collectivement, à des besoins. Et non pas dans le modèle de l'économie collaborative, c'est juste l'économie collaborative, elle répond à des besoins individuels, qui peuvent être que des besoins individuels, et ça répond simplement par une espèce de... Enfin, le modèle de la mutualisation, c'est des individus qui ramènent qui mettent leur voiture dans un pot commun et qui solutionnent individuellement leur... Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas très très loin en fait, d'une espèce de capitalisme de plateforme. Finalement, on n'est pas du tout dans une démarche politique intéressante.
Ouais, même dans une perspective de résistance au travail et à l'économie, on peut dire que, au moins dans la coopération intégrale, c'est valable dans tout ce qu'on fait par rapport aux bagnoles. Ben, t'es pas seul face au fait de l'acquérir, face au fait de la gérer, face au fait de la réparer, face au fait de l'utiliser pour des usages agrémentaires ou qui te sont un petit peu contraints, genre le boulot. Parce qu'on peut voir ça aussi comme un décalage aussi de gestion habituelle du foyer, sa bagnole, sa capacité d'emprunt, à une gestion collective, au moins une prise en charge collective qui ne répond pas à un problème de dépassement du capitalisme, mais qui au moins fait que les gens ne sont pas tout seuls face à la nécessité d'emprunter pour une bagnole. Et c'est assurants. Au moins un déplacement de curseur qui fait que c'est au moins une forme de résistance collective au capitalisme, en tout cas plus agréable à vivre pour le moment.
Eh bien, on va là-dessus faire une pause musicale avant de revenir sur d'autres composantes de cette expérience de coopération intégrale, puisque ici on en a principalement abordé deux, qui étaient donc les lundis communs et leur genèse depuis les jardins partagés et la ferme d'autoproduction, et puis la question des transports, ce qui a été décrit auparavant.
Ensemble, car ensemble tout devient possible. Le DIY, c'est faire des t-shirts ensemble, car ensemble tout devient possible. Ensemble, tout devient possible, car l'union fait la force tranquille. Ensemble, américain, si possible. DIY, c'est réparer des vélos, mais pour amener les bières, il vaut mieux une auto. Ensemble,